appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro de parole aux auditeurs. Les professeurs de l'université de Kinshasa, regroupés au sein de la Poukine, ont déclenché depuis le mercredi 6 août dernier un mouvement de grève sèche. Ils ne comptent la lever que si le gouvernement répond positivement à leurs revendications. Notons qu'une situation similaire a été aussi observée au sein de l'Université pédagogique nationale, UPN. Par ailleurs, les magistrats de la RDC ont aussi lancé le mouvement des grèves pour réclamer l'amélioration de leur rémunération. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de ces grèves à répétition et comment peut-on répondre favorablement aux types de revendications? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Alain Goy est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par J.R. Lungembo et Pierrot et la Meji. C'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Seboujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
C'est pas la première fois que la Poukine déclenche un mouvement de grève. Quelques revendications que nous allons avoir tout à l'heure parce que nous avons associé dans cet échange le professeur Antoine Kitombolé, ancien président de la Poukine, mais c'est lui qui a mené, on se rappelle bien, dans l'ancien temps, les négociations, les discussions avec le gouvernement par rapport à ces revendications de professeurs. Professeur Antoine Kitombolé, merci d'être avec nous. Bonjour. Professeur, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes bonjour, un. Bonjour. Voilà, vous êtes ancien président de bonjour, la Poukine. Mais on se rappelle bien que vous avez mené les différentes discussions, négociations avec les gouvernements. Aujourd'hui, précisément, quelles sont les revendications des professeurs de l'université de Kinshasa?
Bon, quand il y en a quatre, si je vais les citer. La première revendication, c'est l'application de la loi 4, plus précisément dans le cas de ramener la démocratie à l'université en élisant les recteurs. Il y aura des comptes à rendre aux professeurs, aux agents de l'université. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout le monde se rappelle que le gouvernement avait décidé que les étudiants payent au taux de 920. Décision que nous avons vraiment saluée parce que ça a allégé la charge des parents et en contrepartie, le gouvernement s'est engagé à suppléer. Et jusqu'à ce jour, il y a un problème, c'est-à-dire le manque à gagner de 2017-2018 vient à peine de se terminer. 2018-2019, le gouvernement n'a jamais même commencé. Et enfin, il y a le problème des arriérés. Le professeur attend les arriérés depuis 2011. C'est-à-dire, en 2011, il y a eu 3 mois où le professeur n'a pas reçu son salaire. Alors, il réclame depuis cette date jusqu'à ces jours. Maintenant, on a ajouté aussi l'amélioration, c'est dans l'avenir proche des autres conditions, des autres points. Mais sinon, le point essentiel, c'est que je viens de citer. Je rappelle, premier point, application de la loi 4 avec l'élection des recteurs qui amène à la démocratie. Deuxième point, le manque à gagner sur le taux de 920 que le gouvernement avait fixé. Et puis, troisième point, les arriérés de 2011 que le gouvernement n'a pas payé jusqu'à ce jour.
Mais quand on regarde tous ces points, professeur, rappelons quand même que ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on regarde la question des arriérés, vous l'avez dit, 2011, quand on regarde le débat sur le taux, on a eu d'ailleurs beaucoup de débats, beaucoup d'échanges avec l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais j'ai vu aussi dans les revendications la situation des trop perçus, hein, dans les dossiers des véhicules.
C'est ce que j'ai dit, les arriérés de de 2011. C'est ça le trop perçu.
Exactement. Mais alors, qu'est-ce que là a été la réponse? Vous avez initié les discussions depuis longtemps quand vous étiez encore président de la Poukine. Quelle a été la réponse ou les engagements du gouvernement sur ces revendications?
Mais le gouvernement a toujours dit qu'il va payer, mais en exécution, le gouvernement paye. Et puis, le gouvernement vous fait tourner en rond. C'est ce qui a été constaté. Si les professeurs sont arrivés jusqu'à l'arrêt, à la suspension des activités, c'est parce que le gouvernement, en signant les protocoles, à chaque fois, il y a une signature des protocoles d'accord que le gouvernement ne respecte pas. Il signe, il s'engage, et puis il ne respecte pas. Tous ces points-là sont bien consignés dans les protocoles d'accord. Et puis, dernier protocole d'accord, c'est de novembre 2018, où le gouvernement s'est engagé à tout faire en janvier 2019. Il n'a jamais fait jusqu'à ce jour. Donc, c'est ça qui fait que, malgré que le gouvernement signe, s'engage et ne respecte pas sa signature et fait traîner les choses en longueur. Mmh. On en arrive là, nous sommes arrivés avec des conséquences. Les procès ne sont pas contents de cela, à suspendre les cours. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas contents de cela? Mais ils sont obligés. C'est le minimum que nous demandons pour le moment, en attendant qu'il y ait un gouvernement qui prenne ses responsabilités en matière de l'éducation.
Alors, il y a aussi ces auditeurs, ces internautes qui disent, mais pourquoi avoir déclenché ce mouvement de grève à la fin, après la clôture officielle de l'année académique? Pourquoi n'avoir pas fait ça en amont? Est-ce que ça aura plus d'impact et d'efficacité alors que l'année académique a été clôturée officiellement au 31 juillet dernier?
Bon, ça c'est aussi un point de vue, hein. Pourquoi l'avoir pas déclenché plus tôt? Pourquoi l'avoir déclenché? Parce qu'on espérait toujours que le gouvernement allait s'acquitter de ses engagements. Donc on est allé en espoir. Finalement, on a constaté que l'année se termine et le gouvernement n'a jamais respecté. Nous sommes butés à cette difficulté-là. Mmh. Donc on a donné suffisamment de temps au gouvernement, on a patienté, on a donné des enseignements en se disant de bonne foi que nos revendications seront entendu par le gouvernement. Mais à notre grande surprise, on est arrivé jusqu'à la clôture, on a constaté le fait, mais finalement on s'est dit non, trop c'est trop, mais alors allons-y, comme ça on va négocier et puis on va voir comment nous allons ne plus qu'absorber les points là. Donc tous ces points que je cite ont été vraiment autorisés. Par exemple, l'application de la loi 4, ça a été promulgué par le chef de l'État. Le chef de l'État a signé encore une ordonnance pour dire qu'il est pour les élections. Mais c'est le ministre de l'époque qui a bloqué, il a signé l'arrêté sans signer les annexes. Tout ça pour bloquer, pour qu'il n'y ait pas élection. Vous voyez, donc, les manquants, on s'est même entendu que dans l'année 2018-2019, ça sera inclus dans les salaires. Pour éviter ça, j'étais avec eux. On s'était entendu que ça sera inclus dans les salaires. Et 2018 vient de se terminer, ça n'a jamais été fait. Vous voyez, le paiement là, on a même fait des documents. Quand ils font les documents, et puis ils les font arrêter après. Ils vous disent que nous avons fait les documents, et puis après ils courent après pour arrêter que ces documents-là n'évoluent pas. Donc c'est vraiment cette situation contre notre bonne volonté. Nous sommes forcés. Et il faut que la population aussi comprennent, ce n'est que le minimum, et c'est ce minimum-là qui permet à ce que l'enseignement essaye de résister, comme vous voyez, avec beaucoup de problèmes, bien sûr.
Alors, le professeur, oui, on va écouter. Mais avant d'écouter les auditeurs qui sont en ligne, il y a un internaute qui dit, mais alors, d'un côté, les étudiants, eux, ils seront préjudiciés, mais ils ont déjà payé les frais. Ils ont tout payé, mais ils vont être préjudiciés parce que le professeur va être en grève, alors qu'ils ne sont pas redevables au niveau de l'université d'avoir déjà payé les frais. Comment arriver à concilier cela?
Bon, nous comprenons bien que les étudiants sont avec nous, nous travaillons ensemble, nous faisons tout ce qui est à notre possible pour qu'ils aient la matière et les connaissances voulues, afin que notre pays soit développé. Nous les comprenons très bien, mais nous pensons aussi que pour leur intérêt, pour que les choses se passent quand même, avec le minimum tel que je l'ai dit, il faut que le minimum que le prof attend soit aussi obtenu. Il a raison, les étudiants ont payé. Mais maintenant, je vous donne quand même une petite idée. Avec le taux de 920 que les étudiants ont payé, d'habitude, au taux normal, l'étudiant de classe de recrutement paye $290 pour toute l'année. Et l'étudiant de classe de recrutement paye $275. Mais avec le taux de 920, l'étudiant de classe de recrutement paye $165. Et celui de classe montante, $155. Mais alors, donc, vous voyez ce que l'étudiant paye réellement. Et la différence, c'est que l'État devait compléter. Okay. Bien sûr, c'est une université de l'État. Il faut quand même un petit minimum. C'est pour cela que l'étudiant paye ce taux-là. Nous avons dit que non, il n'y a pas de problème. C'est nos parents qui souffrent pour nous. On doit même supprimer ce partenariat-là, que l'État prend complètement en charge pour que nous ne revenions pas au niveau de partenariat avec les parents. C'est comme ça qu'on s'est entendu avant que je quitte les commandes de la Pukine. Mm-hmm. Donc, pour dire que je vous donne les chiffres pour que vous compreniez bien la hauteur de ce minéral, pour que vous compreniez bien que l'effort que le professeur est en train de fournir dans ces conditions-là pour leur donner la matière. Je rappelle en attendant, sans éducation, il n'y a pas de développement. Bien sûr, l'éducation, c'est depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, je vous donne un peu, j'ai expliqué un peu, même à l'ami, là, qui se disait que l'étudiant a tout fait. Bon, bien sûr, il a tout fait, mais je vous donne aussi à quelle hauteur il a tout fait.
Merci. On revient à vous, le temps d'écouter Félicien Kalala, qui est ici à Kinshasa. Félicien, merci de nous avoir rejoint dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio Okapi, malgré de longues absences éparpillées partout dans le monde.
On vous écoute.
Bon, merci, monsieur le journaliste, de l'intérêt m'accorder. Votre sujet est pertinent aujourd'hui pour cette situation qui arrive dans presque toutes les entreprises étatiques dès l'avènement de nouvelles autorités à la tête de notre pays. C'est que les professeurs, à mon niveau, à ma compréhension, est que toutes les entreprises veulent profiter de ce climat de changement intervenu au sommet de l'État pour que ceci soit pratiqué partout là où il y a le travail. Mais quelque part, d'une part, moi, je n'apprécie pas aussi précipitation, permettez de l'expression, précipitation des professeurs. Pourquoi? Puisque, en attendant le professeur sur classe, il a dit que les derniers accords ont été signés en novembre 2018. Alors, avec les ministres de l'ESI sortant. Alors, à mon avis, pourquoi pas attendre que le ministre qui est actuellement, qui est intérimaire, puisse quitter et que le nouveau gouvernement intervienne pour déclencher la grève. Et de deux, si vous entendez le procès parmi ces revendications prioritaires, il y a aussi la question de la démocratie, parce qu'il n'y a pas des élections qui se font au niveau de leur comité, tout ça. Même nous aussi, quand nous fûmes étudiants, nous étions aussi asphyxiés par cette situation. Pourquoi lorsque les élections ne se passaient pas à la tête du pays, même nous aussi, nous étions obligés de ne pas choisir. Et les cordons, tous les comités directeurs des étudiants étaient bloqués pour cette affaire-là. On ne choisissait pas. Et nous aussi, on ne revendiquait pas. Les mêmes professeurs qui vous parlent là, nous disaient chaque fois que non, patientez. Ce sont eux-mêmes qui coopéraient avec ceux qui étaient à la tête et pour nous empêcher de lire nos dirigeants. Nos différentes revendications ne prenaient pas gain de cause. Alors
moi, vous estimez, vous, pour vous, Félicien, vous estimez que la situation de grève, parce que un moment ça a été des grèves généralisées, et pour vous, le professeur de la Pukine devrait attendre le nouveau gouvernement, mais n'oubliez pas aussi que nous sommes dans le système de continuité de l'État. C'est pas parce qu'un ministre est parti qu'automatiquement les dossiers peuvent être jetés, mais pour vous, il faut quand même que la Pukine attende le nouveau gouvernement pour pouvoir revendiquer soit déclencher le mouvement de grève. Merci beaucoup, Félicien Kalala. Trésor, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bienvenue dans Madimba. Bonjour à tous les aimables télé auditeurs de la radio Okapi, la chaîne de la paix. Je voulais aussi émettre mon avis quant à ce sujet. C'est très bien d'organiser ce genre de sujet parce que ça permet, n'est-ce pas, aux auditeurs d'avoir une idée sur la politique de notre pays. À mon avis, je trouve que ces grèves sont non fondées pour tous les deux côtés, M. Donat, que ce soit du côté professeur et du côté magistrat. Car aujourd'hui, les auteurs de ces dérives sont les pièces maîtresses de la corruption dans notre pays. Du côté professeur, Donat, vous allez comprendre que l'achat des syllabus, ce qu'on appelle le support, et le phénomène du circuit, font beaucoup d'argent aux professeurs. Et ça, c'est même secret pour personne. Du côté magistrat, là, c'est aussi tragique. Du fait qu'aujourd'hui, ça, c'est même secret pour personne que les magistrats congolais ont failli la réputation de notre pays. Aujourd'hui, même là dans les pays étrangers, on est en train de cacher la RDC parmi les pays les plus corruptibles d'Afrique. Alors, je demanderai aux auteurs de ces grèves de garder leur sang-froid, enfin de patienter un tout petit peu la sortie du gouvernement.
Merci beaucoup. Mais alors, pour vous, Trésor, vous estimez
pour répondre à leurs besoins.
Voilà, merci beaucoup, Trésor. Mais vous estimez que du côté, parce que les professeurs, ils ont les à côté qui leur donnent l'argent, comme par exemple la vente des syllabus, pour vous, ils n'ont pas le droit de pouvoir revendiquer sur leur salaire. Mais vous avez rejoint Félicien qui estime qu'il faut attendre le nouveau gouvernement pour pouvoir négocier cela. Alors, comment arriver à mettre fin à ces différentes revendications et mouvements de grève, par exemple celui qui a lieu à l'Université de Kinshasa, Olivier, quels doivent être les préalables? Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs. Oui, Pierrot, les préalables, il y en a beaucoup. Je pense qu'on doit se mettre d'accord d'abord sur ce qu'on appelle conditions de travail. Ça, c'est la première chose. Et il faut que, je sais, pour le moment, ça nous prendra beaucoup de temps. Moi, je proposerais qu'on y aille en étapes, parce que aujourd'hui, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, qu'on améliore les conditions de tous les du secteur de l'enseignement, par exemple, pour tout le monde. Alors, ça signifie que nous devons trouver une méthode qui nous permette d'y arriver. Et c'est là que je condamne les professeurs, parce que généralement, quand ils réclament, ils ont une vision très limitée à leur regroupement de professeurs, alors que le secteur de l'enseignement, c'est un secteur plus large et tout le monde du secteur se plaint des conditions. Donc, j'aimerais qu'on puisse avoir une vision plus globale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous constatons que les professeurs, quand ils sont dans un camp, dans le camp du gouvernement, où ils sont très réguliers et ils sont très nombreux là-bas, ils ont un autre langage. Et quand ils reviennent dans l'auditoire, le langage change et c'est une des difficultés justement et c'est une des faiblesses. C'est une des faiblesses. Et le troisième problème, c'est que on accepte parfois l'inacceptable. Moi, je vois très mal que des économistes et d'autres personnes du secteur de l'enseignement, donc des intellectuels, ont pu accepter le taux de 92% parce que économiquement parlant, c'était un suicide. Maintenant, réclamer aujourd'hui, alors qu'on a voulu aider le gouvernement, je pense que, pour moi, c'est une revendication qui n'en vaut pas la peine. Je sais vraiment, c'est ce que j'aimerais dire à tout le monde. Mmh. On a accepté.
Merci beaucoup. Mais on se rappelle bien que cette affaire de taux, merci hein, Olivier, cette affaire de taux avait créé beaucoup de remue-ménage. Il y a eu même des violences au sein des universités. On a eu des débats. On sait ce qui s'est passé dans beaucoup d'universités quand les étudiants ont pu manifester. Mais pour vous, les professeurs devaient aussi revendiquer d'une manière élargie. Mais vous avez quand même porté la responsabilité sur les professeurs parce que même ils sont encore politiques, ils sont au gouvernement, ils sont dans le ministère, ils sont les directeurs des cabinets. Mais alors, comment on peut arriver à résoudre ça? Professeur Antoine Kitombolé, on revient vers vous. Je rappelle que vous êtes ancien président de la PUKIN. Vous avez mené les démarches autour de cette question. Mais si vous écoutez, d'une manière globale, nos auditeurs, professeurs, ils estiment d'abord, en première partie, qu'il faudrait attendre un nouveau gouvernement pour engager des discussions avec lui plutôt que gréver maintenant. Mais il y a aussi ce qu'Olivier dit, mais vous-même, vous êtes responsable. La plupart des professeurs sont en politique. Ça veut dire qu'ils devaient avoir la main facile de mener des réformes ou de trouver des solutions parce que même ils sont dans tous les deux camps. Vous êtes dans les camps professeurs, mais vous êtes aussi dans les camps politiques, professeurs.
Bon, écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Les professeurs qui sont dans les camps politiques, ce n'est pas l'association ou ce n'est pas le groupement des professeurs qui sont décidés que nous envoyons tel ou tel professeur dans tel ou tel parti politique. C'est un militant qui est allé dans tel en tant qu'individu. Et là-bas, il défend ses intérêts là-bas en tant qu'individu, pas l'intérêt du corps professoral. Ça, c'est, il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas seulement les professeurs, il y a aussi les licenciés. Comment on veut inventorier, on regarde les nombres des licenciés qui sont là et les nombres des professeurs. Vous allez constater que vous-même, il y a beaucoup plus de licenciés que des professeurs. J'insiste bien, ils sont allés là à tout à fait personnel. Et il y en a peut-être qui peuvent utiliser leurs connaissances pour faire évoluer notre République. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais est-ce que nous, ça nous engage, nous tous, ça engage tous les professeurs. Quand ils sont là, ils n'appliquent pas leur matière. Ce sont des professeurs, par exemple, en droit. Il est spécialiste en droit. Il est là, il est dans des histoires tout à fait générales. Bon, maintenant, en quoi on peut dire que non, il doit nécessairement, là où il est, commencer à défendre des professeurs. Non, les professeurs sont organisés en un corps. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut attendre le gouvernement, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Pourquoi on ne doit pas attendre le gouvernement pour tout ce qui se passe? Tout ce qui est en train de se passer, pourquoi ils ne disent pas qu'il fallait attendre le gouvernement pour que la République du Congo commence à fonctionner? Alors, c'est ça, je crois que c'est leur vision, hein. Je ne les condamne pas de penser de cette manière-là. Non, la République s'arrête quand il n'y a pas de gouvernement, nous tous nous arrêtons, mais personne ne fait des défenses, personne ne fait fonctionner quoi que ce soit, jusqu'à ce que le nouveau gouvernement va venir. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors, maintenant, le prof, il a des à côté, il y a ceci, il y a cela, les ventes des syllabus, il se retrouve à gauche, à droite. Mais ça, c'est un problème d'autorité et de gestion. Les professeurs, ce sont des gens qui travaillent. Donc, ils travaillent sous l'autorité. Alors, l'autorité qui est en place doit être capable de sanctionner ceux qui ne travaillent comme il faut, au lieu de laisser ça et de faire croire à tout le monde que c'est tout le monde qui fait ça, c'est tout le monde qui vend les c'est tout le monde qui vend les cotes. Alors, ça, c'est généraliste de cette manière-là. Mais non, moi, je crois que c'est de la responsabilité de l'autorité qui est en place, parce que c'est banni. Tout ce qui est mauvais, vu par le commun de mortels, le commun des citoyens, est aussi mauvais pour nous tous, les professeurs. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est que eux pensent que c'est mauvais, que nous pensons que c'est bon. Mm-hmm. Mais non.
Alors, maintenant, professeur, il y a le cas, vous avez évoqué le cas de la démocratie avec l'élection des recteurs. Vous l'avez dit c'est que ça, le ministre n'a pas ça. Voulu. Mais alors, quelles ont été les raisons avancées par le ministre pour faire traîner ce dossier alors que cela a été vraiment salué quand la loi cadre a été adoptée et promulguée? Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce qui a bloqué en principe pour qu'on n'arrive pas exactement à cette élection de recteur?
Vous voyez, moi j'ai vécu, j'ai fait longtemps, j'ai travaillé au moins avec 5 ministres, sans oublier 6 recteurs, j'ai fonctionné avec eux. Mais d'une manière générale, si il a bloqué ça, il sait, c'est dans ses intérêts personnels, parce que le président de la République avait autorisé, le premier ministre avait autorisé. Donc je rappelle bien, j'étais là. Le président de la République avait autorisé les élections. Le premier ministre avait autorisé les élections. Alors, j'ai signé cet accord. Le jour que j'avais signé cet accord, je suis revenu. C'était devant le premier ministre. J'ai dit, s'il n'y a pas démocratie, s'il n'y a pas élection directeur, je ne signe pas. Alors, le premier ministre m'a rassuré que non, c'est une procédure. Je savais que cette procédure, c'était pour faire traîner le dossier. Effectivement, heureusement, on a pu décanter, c'est revenu à notre ministre, et notre ministre était étonné que ce qu'il pensait faire traîner est sorti vite, et puis il s'est assis sur le dossier. Il a signé l'arrêté, mais il n'a pas signé les annexes. Le problème ici, c'est le ministre qui est parti, qui n'a pas voulu signer, il n'a pas voulu pour ses intérêts personnels, pour son petit ventre.
Alors, le professeur, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on sait que la nomination de directeur depuis tous ces temps, il y a eu aussi la donne politique qui a beaucoup dominé dans la nomination de directeur, mais est-ce qu'on peut dire aussi que du côté des universités, du côté des professeurs, il y a aussi un malaise qui puisse sur lequel le ministre peut se baser pour éviter que ces élections aient lieu. Est-ce qu'au niveau des universités, y a-t-il vraiment, tout le monde est-il unanime, réfléchi de la même manière pour que exactement qu'on aille aux élections, où le ministre a profité aussi, par exemple, de ce qui peut se passer au niveau des universités pour retarder les élections?
Non, mais on ne peut pas réfléchir de cette manière-là, parce que la loi est passée dans les deux chambres. Ils ont eu tout le temps de manifester leur mécontentement. Les deux chambres, ça a pris le temps. Les deux chambres ont adopté. Donc ce qui était qu'on avait... Les chambres représentent toute la population, non? C'est là où les mécontents devaient s'exprimer. Les deux chambres ont adopté. Les deux chambres ont envoyé chez le président qui a promulgué la loi. Mais maintenant, à partir de ce moment-là, qui va être contre de cela? Le temps est complètement évolué. C'est devenu une loi.
Voilà. Et nous estimons, et d'ailleurs nous estimons qu'à la prochaine rentrée, on va arriver vraiment à concrétiser cela. On vous regarde en ligne 081-890-4969. Junior, vous êtes à Kinshasa et Jules à Lubumbashi. On revient à vous, mais n'oubliez pas aussi de déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais en direct, vous pouvez intervenir au 081-890-4969.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Junior, merci d'être avec nous dans Parole aux Auditeurs. Vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot et la Menji. En fait, avant d'abord d'aborder la thématique du jour, je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de la radio au Capi. Cela étant, je fais mienne toutes les suggestions faites par les intervenants, ceux qui ont parlé avant moi. Monsieur le journaliste, vous devez savoir, dans cette thématique, dans ce sujet du jour concernant les universités, il y a beaucoup à dire. On ne sait pas comprendre qui est professeur et qui ne l'est pas. Parce que moi, je connais certaines universités où l'on ne retrouve même pas de professeurs recensément. Nous avons des chargés de cours qui sont en train de former du n'importe quoi avec des...
Oui, Junior, on a perdu Junior, mais malheureusement, on a eu ces débats la semaine passée, Junior, sur l'organisation au niveau des universités par rapport à ceux qui enseignent, qui sont les professeurs, qui ne sont pas professeurs. C'est les débats que nous avons eus avec le ministre à l'intérim de l'enseignement supérieur universitaire. Mais aujourd'hui, on parle de la question des grèves. Hein. Bien sûr, tout est parti de l'université de Kinshasa. Dommage qu'on a perdu Junior, qui voulait faire un débat d'une manière générale sur l'enseignement. On a eu ces débats il y a une semaine et demie maintenant avec le ministre intérimaire. Jules, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Pierrot Lamézier, bonjour à tous les Congolais et à notre invité.
On vous écoute.
Par rapport au sujet du jour, hein, c'est toujours regrettable. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre pays quand même. Parce que il y a des secteurs là où on doit respecter quand même. Il y a plusieurs secteurs qu'on doit respecter. Et surtout ceux de l'enseignement, hein? Parce que c'est le secteur qui nous donne des futurs des ministres, des présidents et tout le monde, des médecins et tout. Mais pourquoi on n'arrive pas à respecter quand même l'État congolais, hein? Donc il y a d'autres secteurs là où on ne grève même pas depuis que je suis né, hein? Il y a la présidence, les ministères tout, là on ne grève pas. On ne comprend pas. Mais pourquoi dans ce secteur-là, les juristes, quoi, les magistrats, les docteurs, tout le monde grève. qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes en train d'évoluer sans budget, sans quoi? Moi, je ne comprends pas. Même si notre auditeur a dit que non, ils n'ont pas les droits de gréver, ainsi de suite. Non, c'est leur droit, ils doivent gréver. Voyez-vous, il y a des accords. Et le problème que je peux aussi interpeller notre invité, monsieur le professeur, est-ce que quand aujourd'hui le gouvernement essaie d'améliorer votre condition de vie salariale et tout, est-ce que vous pouvez aussi améliorer la qualité de l'enseignement? Parce que aux universités, nous, c'est du n'importe quoi. Les problèmes de syllabes, ces circuits. Quand vous passez de l'autre côté, dans nos pays voisins, nous sommes en train de voir autre chose. C'est comme si nous sommes en train de vivre dans l'enfer. Pourquoi la corruption est en train de prendre une autre ampleur? Parce que ça c'est terrible. Il faut.
Alors Jules, vous estimez, Jules,
cette méthode de corruption quand même qui voilà. Entraîne notre pays.
Ok, vous estimez, Jules, d'abord, vous l'avez dit, c'est regrettable. Il y a des secteurs sensibles comme celui de l'enseignement supérieur, par exemple, où on ne peut pas permettre qu'on ne puisse pas améliorer les conditions de travail des professeurs et que les professeurs aillent en grève. Vous déplorez même le fait qu'il y a des endroits où on n'a jamais grévé, la présidence de la République, les cabinets de ministères et partout là-bas, ils n'ont jamais grévé. Mais alors, vous demandez aussi aux professeurs si une fois leurs revendications satisfaites par le gouvernement, il serait aussi mieux qu'à l'intérieur, au sein des universités, qu'on améliore aussi la qualité du travail. Le professeur le disait tout à l'heure que c'est un problème d'autorité parce qu'on est revenu sur la vente des syllabus et tout ça. Merci beaucoup, Jules Nixon. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ouais, bonjour J.R. Longembo, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi, ainsi qu'au professeur Antoine Kitombolé.
On vous écoute.
Oui, merci. D'abord, je salue la personne d'Antoine Kitombolé, parce que moi-même, j'ai été son étudiant à la faculté de médecine, et j'ai été aussi victime de son cours, mais quand même, je salue son intégrité, parce que c'est un homme intègre. Je m'aurais dit au professeur, quand il revendique le problème de l'élection de la comité de gestion, ils oublient un aspect de tribalisme qui caractérise aussi l'université de Kinshasa. Quand il revendique ça, n'ont-ils pas crainte que non, demain on assistera à un problème du tribalisme quand il s'agit de l'élection du comité de gestion?
Voilà. Et ça, c'est la question que vous avez posée au professeur. Professeur Antoine Kitombolé, nous sommes avec Nixon. Nixon, merci beaucoup, Vous dites que vous avez été victime du cours du professeur, mais vous reconnaissez son intégrité. Mais votre peur, c'est de voir aussi l'élection du recteur tourner à ces clivages tribaux. Ça peut arriver. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de passer à l'élection parce qu'on peut avoir des clivages et tribaux? Et professeur, pourriez-vous réagir à cette préoccupation des compatriotes?
Bon, je pense qu'on ne peut pas avoir peur des élections, parce que ça s'est fait au niveau national. Je ne pense pas que la députation s'est fait au niveau tout à fait tribal. Non, les gens ont outrepassé et ils ont fait... Bien sûr, le début est toujours un peu compliqué parce que on va le faire. Et puis ce point-là ne demande même pas l'argent du gouvernement. Ce point-là, ce sont les établissements qui organisent. Mais le ministre n'avait qu'à libérer le texte. Et à la Pukine, on avait déjà organisé une fois. C'est les profs qui avaient demandé qu'on élise le recteur. Parce que c'est très important. Parce qu'il aura des comptes à rendre et aux étudiants et aux professeurs sur place. Il n'aura pas de comptes à rendre. Bien sûr, il doit respecter la hiérarchie. Mais tout ce que on est en train de soulever, tout ce qui ronge l'enseignement, tout ce qui ronge l'enseignement. Donc, il faut que ce monsieur-là... Moi, j'ai dit que c'est un problème d'autorité, parce que c'est mauvais. Vendre des syllabus à des prix... L'étudiant a besoin d'un syllabus. On peut dire que l'établissement fournit les syllabus à $5 pour tous les... Et puis, on donne à l'étudiant les syllabus. C'est important pour... Bien sûr, il faut aller au-delà des syllabus. L'étudiant doit apprendre aussi à consulter sur l'Internet. Les mêmes matières se trouvent dans tous les livres et à l'Internet. Il faut qu'on l'amène là-bas. Je disais au début que c'est le minimum. Donc tout ce qui se passe, ça se passe dans le pays. Et puis, nous devons mettre des responsables. Par exemple, les policiers qui vous arrêtent sur la route,
qui vous demandent de l'argent. C'est de la responsabilité de leur chef. Il faut condamner les chefs. Les professeurs qui font ça, les profs sont là pour travailler. Respecter le règlement de l'université. Le professeur n'est pas au-dessus de la loi. Il ne peut pas faire n'importe quoi à l'université. Moi, j'ai étudié dans ces conditions-là. C'est pour cela que je le dis. Il n'est que simple employé qui est là, qui donne ses cours, qui respecte le règlement de l'université et tout ira bien. Bien sûr, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a bien sûr, il y a les assistants, les types qui font des cours. Il faut arrêter ça. Où sont partis les profs? Il faut faire les TP, les vrais TP. Il n'y a pas de laboratoire. Tout ça sont des problèmes, bien sûr. Mmh.
Mais le professeur, on sait aujourd'hui que ce qui est vrai, c'est que le Congo n'a pas aussi beaucoup de professeurs comme on voudrait en avoir. Le Congo n'a pas aussi beaucoup d'experts. Parce que vous regardez aujourd'hui, vous pouvez voir le professeur qui est à l'université de Kinshasa. Il est expert à la Banque mondiale. Il est sollicité par, des fois, le gouvernement. Il est sollicité aussi à gauche. Il a des voyages à faire. Il a des missions. C'est ça aussi la grande difficulté que nous avons. On n'a pas beaucoup de professeurs. Mais il y a une grande demande aujourd'hui. Hein. C'est ça aussi la réalité du problème.
Je ne vous coupe pas là-bas. C'est vrai, le professeur est un expert dans cette matière, dans une matière bien précise. Hein. Il n'est pas expert dans tout. On peut le consulter, par exemple, un professeur de sciences économiques qui est expert, on peut le consulter à la Banque mondiale, un peu partout. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi que toutes les matières que nous donnons à l'université sont des matières de base. C'est-à-dire, les profs, quelqu'un qui peut donner ces matières-là. Ce n'est pas dit que, bien sûr, quand tu arrives au niveau de mémoire un peu là, mais les cours, ce sont des cours de base. Un professeur qui a été bien formé doit être capable. Et puis, il est formé pour même une matière qu'il n'a pas étudiée. Même, il peut lire, comprendre et puis le donner, comme s'il l'avait fait. C'est ça un vrai professeur. Un professeur n'est pas seulement limité dans sa matière. Il peut lire un domaine. Bien sûr, les domaines fondamentaux. Quand vous formez les étudiants, il y a beaucoup plus, ce sont les cours de base. Vous devez être capable de les lire, de les comprendre et de les donner parfaitement. Donc j'aimerais dire que tout est faisable. On peut reconstruire ce pays, on peut reconstruire les bonnes universités en si peu de temps. Donc, c'est question d'autorité qui est détruite. Quand au-dessus, le chef fait des mauvais, et puis l'autre qui vient là en bas, imite, et puis l'autre qui imite, alors tout est détruit. Donc, Merci. Nous devons mettre des hommes capables de reprendre l'enseignement, parce que c'est le fondamental même du développement, pas seulement l'enseignement supérieur, parce que nous recevons les produits de l'enseignement primaire et secondaire. Si cela, ce n'est pas bien fait, à l'université, ça sera difficile.
Très difficile, ok. On va écouter Platini qui est en Bandaka et Bondi Charles Lubumbashi. On revient encore à vous parce qu'on tend vers la dernière partie de ce magazine pour savoir quels doivent être les engagements des uns et des autres pour permettre aux professeurs de travailler comme il faut, d'améliorer leurs conditions de travail. Platini, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde qui nous suit à travers le pays.
On vous écoute.
Merci beaucoup, J.R. Je vous salue. La thématique du jour, c'est très intéressant. Et aussi, je salue aussi la combativité du professeur, qui est aussi l'invité du jour. Et J.R., moi, je fais un peu allusion, parce que je viens de suivre le précédent émission de Jody Kachama, comment lutter contre la corruption. Et aujourd'hui, J.R., il se pose un sérieux problème, surtout sur le plan éducationnel. Là, je prends l'aspect sur le plan université à travers les pays. Et moi, je fais toujours allusion parce que, comme vous avez dit, qu'au Congo, il n'y a pas beaucoup d'experts, il n'y a pas beaucoup de professeurs. Moi, je dis faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que les gouvernements congolais eux-mêmes connaissent très bien les noms et les nombres du professeur. Et chaque année, il y a des professeurs qui sortent au niveau... soit au niveau de la République. Chaque année, il y a des professeurs qui sortent. Et aujourd'hui, si les professeurs revendiquent l'amélioration, le prime, tout ça, et les professeurs eux-mêmes sortent au courant, ils sont des gens qui ont mieux payé à travers les pays. Ce sont des gens que le gouvernement les paye et paye très bien. Parce qu'on dit au Congo, si on paye ne plus que 2 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et de deux, même les professeurs eux-mêmes, ils sont ce qu'on appelle les boutiques. Leur boutique, c'est le syllabisme. Et le syllabisme, là, il n'y a même pas un prix, il n'y a pas un barème pour ça. chaque professeur peut mettre le prix dans son syllabus. Et cet argent-là, c'est pour lui-même. Alors moi, je pense que pour le moment, on n'a pas encore eu le nouveau gouvernement, parce que Théophile Mbemba n'est pas là, Steve Mbika n'est pas là, surtout sur l'aspect de l'enseignement supérieur et universitaire. Il n'y a pas le ministre de tutelle. Hein. Ce qu'il fait là, c'est fait qu'il expédie seulement les affaires courantes. Donc, il ne peut jamais prendre les décisions purement qui est décisive, parce que lui expédie seulement les affaires courantes. Maintenant, pour l'amélioration, le professeur doit revoir très bien. Parce que quand l'enfant quitte le secondaire, passe au niveau du secondaire, passe au niveau de études supérieures, tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'amélioration des capacités intellectuelles. Mais les professeurs aujourd'hui au Congo, ils sont toujours basés sur l'argent. Ils sont toujours
basés sur l'argent. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, Platini, vous l'avez déjà dit que le professeur, dans le minimum, vous estimez que dans le minimum, ils sont mieux payés. Mais vous avez aussi évoqué qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire que l'autre invité l'a dit, il y a des problèmes, il faut les affronter, il faut améliorer, il faut de l'autorité, il faut aller plus loin, vous l'avez dit. Mais on ne sera pas aussi généralisé dans ces débats pour dire que tous les professeurs du Congo, leur vie, leur travail à l'université est basé sur l'argent, quand bien même l'argent est très important pour permettre à ces professeurs de travailler dans les bonnes conditions, mais on ne sera pas généralisé. Mais quand on a évoqué sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de professeurs, quand vous regardez aujourd'hui les nombres du université en sciences supérieures à travers le pays, le nombre d'étudiants qui sont inscrits régulièrement chaque année et le nombre de professeurs exactement qui sont formés, ceux qui soutiennent leur thèse, ceux qui accèdent bien sûr à ces titres, c'est ce qu'on disait, qu'ils ne sont pas très très nombreux par rapport aux besoins, à la demande aujourd'hui du Congo en termes de nombre de professeurs. Mais pour vous, vous estimez que les deux autres ministres ne sont pas là, il faut qu'on attende le nouveau ministre, mais il y a quand même les bases, les négociations, les discussions, les signatures, c'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire des institutions, et quand quelqu'un quitte l'institution, les accords restent, et ces accords peuvent être respectés, exécutés par un autre qui va le remplacer. Merci beaucoup Platini Bondish, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
On vous écoute.
Je considère d'abord la parole qui est contenue dans la Bible. La Bible nous dit on ne peut pas être à la fois à la table du diable et à la table de Jéhovah. Aujourd'hui, tout Congolais sait que le berceau de la corruption, ce sont nos universités. Que le centre nerveux de la corruption, c'est la magistrature. Alors, ayant dit cela, je demanderai aux professeurs, s'ils veulent vraiment se mettre en grève, qu'ils commencent par se mettre en grève contre leur propre comité de gestion. Pour le reste, qu'ils soient patients, car ils sont à la base de la baisse du niveau d'études dans les universités à cause de la corruption généralisée qui règne dans ces institutions. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, Bondish. Vous estimez qu'il y a tellement beaucoup de problèmes au sein de nos universités que les professeurs devraient d'abord se révolter contre les comités de gestion, parce que qui permettent à ces compagnies ces pratiques qui font que le niveau de l'enseignement puisse baisser au niveau des universités. S'ils devaient d'abord s'attaquer à cela à partir à l'intérieur des universités, ils peuvent maintenant s'attaquer aussi à ce que le gouvernement fait. Merci beaucoup. Jonas, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Et merci. La revendication des professeurs et des magistrats, c'est un droit, c'est un acquis. Ils méritent de revendiquer leur salaire parce qu'ils travaillent. Mais, monsieur le journaliste, nous sommes en train de mettre une inquiétude. La plupart des professeurs sont autour du pouvoir, que ce soit le pouvoir qui venait de mandat, la mandature venait de s'écouler, que ce soit cette mandature, ce sont les professeurs qui saignent les autorités.
Dommage, on vient de perdre notre ami Jonas de Kananga. Lui, il estimait que la grève, elle est légitime, c'est un droit pour les professeurs. Mais il revenait aussi sur la responsabilité de professeurs parce qu'il estime qu'il y en a, comme je le disais tout à l'heure, qui travaillent aussi en politique. Notre invité l'a dit, ils y vont d'une manière individuelle, ils ne vont pas là-bas pour au nom de professeurs. Alors professeur Antoine Kitombolé, on revient à vous, on écoute les inquiétudes des uns et des autres. Hein. Il y a même notre ami Bondiche qui estime qu'il serait mieux d'abord de se révolter là contre le comité de gestion pour les choses qui ne marchent pas au sein des universités, mais parce qu'on doit revenir au sujet principal qui est la revendication des professeurs face aux promesses du gouvernement. Alors, quels sont les mécanismes aujourd'hui qui peuvent faire à ce que qu'on ait des décisions qui sont prises de manière définitive, que ce soit les salaires qui doivent être bien fixés, que ce soit des primes qui doivent être déjà bien fixées pour permettre aux professeurs de travailler sans chaque fois revenir à des mouvements de revendications. Qu'est-ce qui doit être fait à ces niveaux-là pour qu'on arrive quand même à un règlement assez définitif, si on peut dire ainsi, de la situation?
Bon, moi je pense que ici, bien sûr, ce n'est pas une décision que le gouvernement devait prendre, parce que les décisions, on a déjà signé un protocole d'accord qui est là, c'est question de l'exécuter. Donc, on n'est pas au stade où on va se retrouver avec le gouvernement pour qu'il prenne encore une autre décision. Non, non, c'est exécuter seulement le protocole d'accord qu'on a signé. En gros, c'est ça. Maintenant, les primes qui sont fixées et que vous venez, on a déjà primé, vous venez pour que on améliore, parce que le gouvernement, c'est une université de l'État. C'est l'État qui est le propriétaire. Si l'État décide que non, comme à l'école primaire et secondaire, on est en train de penser à ce qu'il n'y ait pas contribution des parents. Si de la même manière, le gouvernement dit que non, il n'y aura pas de contribution des parents au niveau universitaire, mais là-bas, on peut peut-être fixer un petit montant déjà pour permettre quand même à ce que l'État ait une contribution dans le budget national, même $100, quelque chose comme cela. Donc, je pense que ce qui est ici, c'est le respect des textes. C'est-à-dire, vous signez un texte, vous devez le respecter. Il ne faudrait pas que vous signiez un texte, vous faites semblant de l'ignorer, et puis vous poussez les autres à ce qu'ils réclament, ils mettent beaucoup de temps pour réclamer leurs droits, pour qu'après, bien sûr, je comprends. Nous tous, moi, je fais partie aussi du peuple congolais. Je suis avec eux. Je suis aussi d'accord avec eux. Il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation. Il y en a beaucoup trop. Mais j'ai dit, je le redis encore, il y a des choses qui dépendent de l'autorité. Il doit mettre de l'ordre. Des choses qui ne sont pas correctes. Nous tous, nous voyons que ce n'est pas correct. Les Vendées syllabus, s'il y a des points qui sont donnés d'une façon malhonnête, c'est l'autorité. Parce qu'il y a une organisation au niveau de l'université, il y a les CP. Les CP, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les présents de chaque fois un prof est là, ils notent les profs à combien d'heures. Donc on peut savoir si le prof a bien donné son cours. On peut savoir aussi que le prof a vendu à combien son syllabus. Mais du côté de vente des syllabus, on peut remettre ça au niveau de l'établissement qui multiplie et puis qui remet aux... Donc tout ça, c'est un problème d'autorité. Tous ceux qui sont en train de se plaindre là, c'est pour cela que nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait élection, qu'on amène la démocratie. Bien sûr, il y a la crainte du tribalisme. Mais maintenant, moi, je me dis, tu es mon frère, tu me fais souffrir, je continue toujours à te supporter. Mais ça, c'est trop me demander. Hein. Moi, j'ai crainte de faire, j'accepte que toi, tu continues à me maltraiter là-bas parce que tu es mon frère. Ah non, ça, je ne peux pas accepter. Donc, je pense que c'est un effort à nous tous. Il y en a qui disent qu'il faut attendre que le gouvernement vienne. Bien sûr, il faut attendre le gouvernement, mais cela devait être d'une manière uniforme partout. Donc il faut être logique. Quand vous dites les uns d'attendre et les autres n'attendent pas, ça devient tout à fait difficile à comprendre. Mais
alors, professeur, parce qu'on va bientôt terminer, je crois, dans deux minutes et demie. Il y a plusieurs voix, les voix qui se sont élevées hein, depuis un moment, qu'on puisse organiser les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire pour exactement résoudre toutes ces questions. Il n'y a pas seulement ces problèmes parce qu'on a ouvert cette parenthèse. Il y a les problèmes de ces institutions d'enseignement supérieur et universitaire qui se créent partout, des arrêtés, des autorisations qui sont accordées dans tous les coins du pays. Vous avez déploré qu'on ait des assistants qui sont en train, qui sont presque titulaires des cours. Voilà autant de problèmes qui se posent. Est-ce que c'est nécessaire vraiment d'avoir ces états généraux qui doivent se pencher sur les vrais problèmes et apporter des solutions aux problèmes de l'enseignement supérieur et universitaire?
Bon, moi,
je ne suis pas tellement chaud d'organiser les états généraux. Pourquoi? Parce que les tests qui sont là ne sont pas exécutés. La loi CAD n'est pas exécutée. Mais là, donc moi je pense qu'il faut faire d'abord un état des lieux, c'est-à-dire chaque établissement, pas commencer directement par les états, on réunit les gens. Non, non, il faut faire un état des lieux. Chaque établissement, et il y a une administration, chaque établissement fait son état des lieux à l'interne pendant toute une année. C'est à la fin de cette année-là qu'on doit penser maintenant à organiser les états. Pas comme ça, on se réveille, on commence maintenant. Non, non. Non, non. Parce que je vous dis, par exemple, la loi cadre, mais même pas exécutée, mais là, même le programme, mais on les suit difficilement. Il faut que les établissements disent exactement qu'est-ce qui est fait. C'est ça l'état des lieux que je demande, avant de passer aux états généraux. Il ne faut pas tout d'un coup commencer à crier, il faut les états généraux quand les textes en place, on ne les applique pas. Mais alors, on va pondre encore d'autres textes qui ne seront pas appliqués.
C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est d'abord d'appliquer ce que la loi cadre dit. D'ailleurs, quand on regarde cette loi cadre, elle a résolu tellement beaucoup de choses. Elle a posé les bases de beaucoup de choses qui doivent être améliorées.
C'est ça. Et puis on le jette, et puis en dehors, on vient faire encore d'autres forums, mais maintenant, à quoi ça sert?
Alors, enfin, pour revenir aux revendications actuelles, depuis que le mouvement de grève a été lancé, y a-t-il eu déjà des tentatives, des discussions de rapprochement entre le professeur de l'Université de Kinshasa avec le pouvoir public pour voir comment trouver des solutions par rapport à ces revendications?
Non, moi, comme je suis plus aux affaires, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Là, il faut poser la question au président en place, c'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire pour le moment. Est-ce qu'il est en contact avec les autorités de la ville? Est-ce qu'il ne l'est pas? Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je suis venu juste pour clarifier, parce que c'est un dossier que j'ai suivi, que j'ai exécuté moi-même.
Exact.
Toutes ces revendications-là, je suis venu juste pour éclairer.
Merci beaucoup, professeur. D'ailleurs, avant le début de cette émission, on a été en contact avec le président, le professeur président de la Poukine, exactement, qui nous a dit exactement qu'à 7h, il devait être occupé. Je crois bien qu'on aura des réponses dans les prochaines heures. Merci beaucoup, professeur Antoine Kitombolé. Je rappelle que vous êtes ancien président de la Poukine et vous avez beaucoup suivi les dossiers sur ces revendications du professeur. Merci de nous avoir accordé de votre temps.
Donc c'est moi qui vous remercie, c'est à votre disposition. Merci beaucoup.
Merci professeur. Et merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets en direct, mais nous vous suivons les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Alain Goy qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Gilles Lungembo, Piero et Lamé. Ça a été pour moi un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Et parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.